Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le Saint-Père a autorisé le dicastère pour les causes des saints à promulguer des décrets concernant le miracle attribué à l'intercession de la bienheureuse Marie du Mont Carmel, fondatrice de la Congrégation des Serviteurs de Jésus, le miracle attribué à l'intercession du vénérable serviteur de Dieu Carmelo de Palma et les vertus héroïques du serviteur de Dieu Giuseppe Antonio Maria Ibiapina. Les détails dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Bénin, où s'est ouvert samedi le jubilé de 30 ans de la création du diocèse de Dassa-Zoumé, anniversaire dont la célébration est prévue pour le 14 juin 2025. L'Eucharistie qui a marqué cette entrée a été aussi l'occasion de la célébration du 10e anniversaire d'ordination épiscopale de l'ordinaire du Dieu, Mgr François Gnonosou. L'actualité sociale et politique sur les continents nous conduira notamment au Sénégal, au Burkina Faso. Nous conclurons cette édition en écoutant Mgr Yao Kouadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui nous explique les initiatives prises par l'Église de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les fidèles catholiques à la paix, tandis que les élections présidentielles qui s'approchent dans leur pays s'avèrent déjà tendues. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendekere.
Le Saint-Père a autorisé le dicastère pour les causes des saints à promulguer des décrets concernant le miracle attribué à l'intercession de la bienheureuse Marie du Mont Carmel, fondatrice de la Congrégation des Serviteurs de Jésus au Venezuela, le miracle attribué à l'intercession du vénérable serviteur de Dieu Carmelo de Palma, prêtre diocésain de Bari en Italie, et les vertus héroïques du serviteur de Dieu Giuseppe Antonio Maria Ibiapina, prêtre diocésain d'Arara au Brésil. Le souverain pontife a également approuvé les votes favorables de la session ordinaire des pères cardinaux et évêques membres du dicastère pour la canonisation des bienheureux Ignatius Chukrala Maloya, archevêque arménien catholique de Mardin, Peter Toroth, catéchiste laïque de Rakunai en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, avec d'autres causes de béatification, seront incluses dans le futur consistoire qui, comme il est d'usage, couvrira les prochaines canonisations. Fondé le 10 juin 1995, le diocèse de Dassa-Zoumé au Bénin célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Cette commémoration coïncide aussi avec le 10e anniversaire d'ordination épiscopale de l'ordinaire du lieu, Mgr François Gnonosou, nommé évêque le 12 février 2015, puis ordonné à Glazoué, son siège épiscopal, un mois après, le 28 mars 2015. La messe marquant ce double événement a eu lieu samedi à Glazoué. La correspondance de Juste en l'annon.
C'est une foule de fidèles prêtres et évêques venus des 10 diocèses du Bénin, du Togo et du Nigeria qui a entouré Mgr François Nkosu, évêque de Dassa-Zoumé, à l'occasion du 10e anniversaire de son ordination épiscopale. Prenant la parole à la fin de la messe d'action de grâce tenue en la paroisse Saint-Joseph de Glazoué, il a exprimé sa gratitude envers Dieu et l'Église avant d'exhorter la foule à prier pour le Bénin.
Tout ce que je suis, je le dois à l'Église. Ma mère, que je suis appelée à servir de toutes mes forces. Oui, que c'est beau et digne d'être fils et fille de l'Église catholique. Priez pour moi et priez pour moi pour que je reste fidèle à mes engagements vis-à-vis de Dieu et de son Église. Prions pour notre pays, le Bénin. Un pays que je porte dans mon cœur, que je souhaite voir toujours libre. Un pays de foi en Dieu, un pays de fraternité manifeste, un pays de paix et d'unité, un pays référence du respect de la dignité humaine et des droits humains.
Cette messe marque l'ouverture officielle du jubilé des 30 ans de création de ce diocèse, dont la célébration est prévue pour le 14 juin 2025. Glazoué, près de Dassa-Zoumé, Juste Rlanon pour Radio Vatican.
Près de 60 000 jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire ont participé dimanche à la 3e édition du pèlerinage diocésain pour les jeunes. La marche qui a abouti au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe s'est conclue par une eucharistie au cours de laquelle les jeunes d'Abidjan ont formulé des intentions en faveur de la paix et la cohésion sociale en cette année électorale dans leur pays. Depuis Abidjan, Marcel Ariston-Blé.
L'objectif principal de ce rassemblement était de permettre à la jeunesse catholique de se rapprocher davantage de Dieu en cette période de carême, d'approfondir leur foi et de renforcer leur unité, mais aussi de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, a expliqué le père Eugène Laurence Awandi, l'aumônier diocésain de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan.
Durant ces différentes crises, la jeunesse a été sacrifiée. Nous ne voulons plus de ça dans notre pays. C'est pourquoi l'unité de ces jeunes du diocèse d'Abidjan témoigner que les jeunes veulent la paix, rien que la paix pour notre pays, la Côte d'Ivoire.
Le père Norbert Eric Abécan, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix et Environnement qui présidait la messe, a pour sa part appelé les responsables politiques à préserver l'avenir du pays.
Les jeunes qui sont l'avenir, nous ne voulons pas leur laisser un pays ensanglanté, un pays en fumée. Il faudrait que nous laissions aux jeunes un pays de paix. Donc eux-mêmes, ils apportent leur contribution. Comme je l'ai dit, la paix c'est construit dans le cœur. Eux-mêmes prennent conscience que s'ils portent la paix dans le cœur, puisqu'on ne donne que ce que l'on a, mais c'est la paix qu'ils vont semer partout.
Jean-Noué Niaba, président des jeunes du diocèse d'Abidjan, a quant à lui souligné la portée de cet événement. Face aux joutes électorales imminentes et aux crises passées qui ont ébranlé le pays, il a exprimé ses craintes.
Ce qui nous préoccupe en réalité, non, c'est que les jeunes sont ceux-là même qui sont utilisés, qui sont instrumentalisés pendant les élections. Et nous, on ne voudrait pas que les jeunes chrétiens catholiques s'associent aux politiciens dans ce sens-là. On peut faire la politique, on peut participer au scrutin, mais pas pour la violence. Donc on appelle les jeunes à la paix et à la cohésion sociale.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociale et politique sur le continent. La police était déployée en force lundi dans les principales villes du Zimbabwe. Les entreprises et les administrations étaient fermées après des appels à manifester pour demander le départ du président Emmerson Mnangagwa. Un petit groupe de personnes a essayé de se rassembler sur la place du président Robert Mugabe à Harare, mais a été dispersé par les forces de l'ordre selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Entre lutte intestine au sein de son parti et colère croissante de l'opinion sur fond d'économie défaillante, le chef d'État zimbabwéen fait face à la plus vive contestation depuis son arrivée au pouvoir à la faveur d'un coup d'État il y a 8 ans. Au Soudan du Sud, un mouvement issu de la société civile appelle à en finir avec le duo des rivaux Salva Kiir et Riek Machar qui menacent de replonger le pays dans la guerre civile. Augustine Passili revient sur cette déclaration.
Le collectif sud-soudanais Reclaim, composé d'activistes, de femmes et d'hommes politiques, de chefs religieux et d'universitaires, a publié ce matin un communiqué au ton fataliste, constatant que ni le président Salva Kiir ni son premier vice-président Riek Machar n'ont eu la volonté de mettre en œuvre l'accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud, signé par les deux adversaires en 2018. Nous pensons qu'une paix véritable et durable au Soudan du Sud est impossible tant que Kiir, Machar et leurs milices resteront au pouvoir, affirment ces représentants de la société civile. Ils appellent la communauté internationale à soutenir la tenue d'un dialogue entre Sud-Soudanais qui serait mené par des citoyens ordinaires et non par des élites politiques et des acteurs militaires. L'objectif consiste à préparer cette ère post-Salva Kiir et Riek Machar en identifiant les causes profondes de la crise en cours. La semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est inquiété de cette escalade qui rappelle selon lui la guerre civile ayant ravagé la plus jeune nation du monde à partir de 2013 avec un lourd bilan de 400 000 morts. La menace s'est en effet accrue le mercredi 26 mars avec le placement en résidence surveillée de Riek Machar. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
L'Assemblée nationale du Sénégal examinera ce mercredi un projet de révision d'une loi d'amnistie promulguée par le président au pouvoir et couvrant les violences politiques meurtrières entre 2025 et 2024 sur fond de polémique sur la manière d'aborder les questions de justice et d'impunité face aux crimes de cette période. Cette loi d'amnistie avait été adoptée en mars 2024 dans les dernières semaines de la présidence de Macky Sall afin d'apaiser les années de tensions politiques qui ont culminé à la proche de l'élection présidentielle de mars 2024. Le président burkinabé a gracié la semaine dernière 21 militaires condamnés pour leur rôle dans le putsch manqué de septembre 2015 contre les gouvernements de transition. Il s'agit d'un groupe de militaires condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État, meurtre ou trahison par les tribunaux militaires de Ouagadougou en 2019. Fin décembre 2024, le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà promulgué une loi octroyant une grâce amnistiante à plusieurs personnes condamnées pour leur implication dans le putsch manqué de septembre 2015. À l'approche du 30e anniversaire de l'assassinat du serviteur des dieux Mgr Christophe Muziro Amwene Ngabo, le père Rigobert Kyungu, provincial des jésuites d'Afrique centrale, comprenant la RDC et l'Angola, a animé une conférence sous les thèmes « Mgr Christophe, prophète et martyr, un modèle d'engagement pour la paix et la justice aujourd'hui ». Cette rencontre s'est tenue à l'université jésuite Ekima de Nairobi, au Kenya, à l'initiative de la fraternité Mgr Christophe Muziro. Dans une interview accordée à Radio Vatican, le père Kyungu est revenu sur certains aspects de vie de ce serviteur des dieux. Mgr Muziro a enseigné l'amour du prochain au-delà des frontières. Cet évêque jésuite congolais mort martyr constitue un modèle de pasteur courageux et prophétique.
Mgr Muziro était aussi habité par l'amour du prochain, comme il l'a dit dans une de ses lettres, ses dernières lettres. Et l'amour du prochain, c'est cet amour qui va au-delà de sa propre tribu. Il demandait à ce qu'on puisse aimer tout le monde, on puisse accueillir, recevoir tout le monde, notamment à Bukavu, où on sait qu'il y a eu des vagues de réfugiés, parfois ce sont les Hutus, parfois ce sont des Tutsis, et la population congolaise tombait facilement dans la tentation de s'en prendre à l'étranger, et notamment au Rwandais. Mais Mgr Christophe Muziro ne cessait de leur demander de les accueillir, de les aimer d'après ce que nous enseigne l'Évangile et les Écritures saintes. Il y a aussi son engagement personnel, l'amour de la vérité, un homme qui savait dire non aux richesses de ce monde, un homme qui savait dire non aux sollicitations de ce monde. On sait que quand on a une voix qui porte, on est facilement sollicité pour être corrompu. Mais Mgr Christophe Muziro ne se laissait pas faire. Il avait ce qu'on peut appeler la liberté intérieure. Un homme d'une grande personnalité et pour qui le oui était oui et le non était non. Il n'était pas corruptible, disons. Corruptible comme être humain, oui, dans son corps, dans sa fragilité humaine, mais il ne pouvait pas recevoir de l'argent ou des biens de ce monde pour trahir sa conscience, sa liberté, son sens du patriotisme.
Lors de son voyage apostolique en RDC, le pape François avait proposé la figure de Mgr Muziro comme un modèle de pasteur courageux, une voix prophétique aux évêques de la RDC. Pensez-vous que la figure de Mgr Christophe Muziro constitue une inspiration pour l'action de l'épiscopat congolais aujourd'hui?
Bien sûr que c'est une figure importante. Comme je l'ai dit, c'était un homme cohérent, un homme consistant, un homme qui savait assumer les conséquences de son action et de ses paroles. Un peu à l'exemple de Jésus. Jésus est mort parce que il est resté cohérent avec son enseignement. Et alors, même si on est leader religieux, il y a le risque d'être corrompu. Les risques d'accepter de se taire et de ne pas dénoncer les injustices. Mais Mgr Christophe Muziro ne s'est pas laissé faire. Il a continué de dénoncer les injustices et de dénoncer le mal. Et donc, je crois qu'il peut inspirer les leaders religieux aujourd'hui, pas seulement les catholiques, mais aussi les autres leaders politiques, parce que ce soit dans notre pays ou ailleurs, on connaît des leaders politiques et des leaders religieux qui se laissent facilement corrompre et qui suivent leurs propres intérêts. Et je crois que là, Mgr Christophe Muziro peut beaucoup nous apprendre.
Le père Rigobert Kyungu, provincial des jésuites d'Afrique centrale, des propos recueillis par Christian Combé. Après sa publication le lundi 24 mars, le message des évêques catholiques ivoiriens appelant à une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée a été lu dimanche 30 mars dans toutes les paroisses des 15 diocèses de la Côte d'Ivoire. Cette initiative vise surtout à sensibiliser au mieux nos fidèles catholiques. En tant que chrétiens, ils sont appelés à être des artisans de paix, a expliqué Mgr Yao Kwadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Face à une population ivoirienne de plus en plus préoccupée à l'approche de ce scrutin présidentiel, les évêques ivoiriens n'ont de cesse d'interpeller la classe politique à éviter une autre crise électorale au pays.
Comme Église, par la voix de ses pasteurs, il faut dire que nous sommes en contact avec le peuple. Hein. Nous allons dans les campements, nous allons dans les villages, nous sommes aussi en contact avec les populations des quartiers, de nos villes. Il faut dire que à l'idée même qu'en octobre prochain, il va y avoir une autre élection présidentielle, les Ivoiriens ont peur, ils sont préoccupés, ils sont angoissés parce que qui dit élection de façon générale en Afrique et d'une façon particulière en Côte d'Ivoire, dit mort. Hein. La situation de 2010, la crise post-électorale est encore là. Dans nos souvenirs, l'élection de 2020, dernièrement, avec son lot de morts aussi. Donc, c'est ce qui a motivé les évêques catholiques à envoyer un message fort à toutes les composantes de la société ivoirienne pour les appeler à une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Les Ivoiriens sont préoccupés. Ils sont préoccupés, ils ont peur, ils sont angoissés. À l'idée que chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, il y a des morts. Nous disons haut et fort ce que les populations vivent et pensent tout bas.
Vous venez de le dire, les Ivoiriens sont préoccupés, les Ivoiriens ont peur, les Ivoiriens craignent un autre conflit post-électoral. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait provoquer une crise post-électorale?
Voyez, tous ceux qui veulent se maintenir au pouvoir ou accéder au pouvoir parlent eux aussi d'élections claires, transparentes, démocratiques, mais tous ont peur, paradoxalement, que ces élections se passent de façon claire, de façon démocratique. Tous ont paradoxalement peur du verdict des urnes, parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à accepter le verdict des urnes, sans compter que les élections, souvent dans notre pays, sont truquées en termes de fraude électorale massive. Voilà la raison.
Dans leur dernière déclaration, les évêques ont insisté notamment sur cet appel à une élection inclusive, ce qui permettrait à tous les potentiels candidats d'être sur la liste électorale. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce point? Pensez-vous qu'il y a une exclusion quelque part?
Nous constatons que, avec la publication de la liste électorale provisoire, tous les candidats, malheureusement, ne sont pas sur la liste. Et déjà, ça provoque des grincements de dents. Ça provoque déjà la peur que cela pourrait causer en termes de conséquences, en termes de réactions.
Pensez-vous qu'une élection inclusive permettrait d'éviter une autre crise post-électorale au pays?
Ce seul élément ne suffit pas. Encore faut-il que tous les candidats acceptent, parce qu'il y a l'inclusivité, ça c'est un élément. La transparence, c'est un autre élément. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est un autre élément. Alors, si tous acceptent d'organiser, se mettent ensemble pour organiser des élections crédibles. Et là, ça commence par l'organe qui est chargé d'organiser les élections, la CEI, d'organiser donc des élections crédibles. Mais nous pouvons éviter ce que nous avons l'habitude de voir, que nous déplorons, c'est-à-dire les morts, les crises post-électorales.
Mgr Yao Kwadio, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, y répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Paguin-Dekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi.
Sophie,